Bonjour à tous. Au sommaire de ce magazine, nous recevons aujourd'hui Philippe Jory, professeur de médecine générale à l'Université Paris-Descartes, mais aussi coordonnateur de l'essai Bacloville. Dans le cadre du traitement de l'alcoolisme, l'ANSM vient de donner son feu vert à la prescription encadrée du baclofène en ville. Bonjour Philippe Jory.
Bonjour.
Alors je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'essai Bacloville qui compare l'efficacité du baclofène versus placebo en milieu ambulatoire. Alors l'ANSM vient de donner son feu vert pour que le baclofène obtienne une RTU. Une RTU, c'est le dispositif qui permet aujourd'hui, en l'absence d'alternative, un usage temporaire hors AMM. Alors certains médecins et surtout bon nombre de patients prennent ce médicament comme une révolution. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Une révolution, oui, je suis d'accord avec ça. Ça fait 30 ans que je m'occupe de problèmes d'alcool en tant que généraliste et en tant qu'addictologue. Et je pense qu'en effet, il y a ce traitement apporte une révolution dans la prise en charge.
Pourquoi c'était si important de mener une telle étude en médecine de ville?
Pourquoi c'était si important? Ben, je pense que c'est parce que d'abord, c'est les médecins généralistes qui ont prescrit ce médicament. Et ça me semblait important qu'on puisse étudier ce qui se passe en ville. Je suis un médecin libéral. J'ai la double casquette en tant qu'universitaire et libéral. Et ça me semblait important qu'on sorte un petit peu de l'hôpital, que ce sont des patients qu'on voit tous les jours dans nos cabinets, qu'on prenne vraiment la vraie vie. Et ça me semblait vraiment une étude pragmatique dans la vraie vie. Ce qui a posé beaucoup de problèmes, parce que nous avons des facteurs d'inclusion qui sont finalement très très larges. Des facteurs d'exclusion, de non-inclusion qui sont très très peu nombreux. Et ça a été beaucoup de discussions avec l'agence du médicament, à l'époque l'AFSARS, avec l'équipe, enfin l'équipe qui était universitaire, qui est l'unité de recherche clinique, qui n'avait pas du tout l'habitude de ce genre d'études finalement avec des patients à haut risque. Par exemple, je vous donne un exemple, nous avons des patients qui ont des comorbidités psychiatriques importantes, qui ont d'autres comorbidités, qui prennent beaucoup de traitements. Nous avons des patients qui sont substitués sous buprénorphine, sous méthadone. Nous avons des patients qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes... Enfin bon, je veux dire que vraiment, on voulait faire une étude dans la vraie vie, dans nos cabinets, parce que c'est nous qui voyons les patients qui ont des problèmes d'alcool, et puis c'est nous qui avons initié ce traitement baclofène.
Alors justement, dans la vraie vie, on va essayer d'expliquer à nos auditeurs ce qui se passe. Le protocole de la prescription du baclofène est vraiment complexe, c'est ce que vous m'avez confié en préparant cette émission. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes?
Alors, il est complexe parce que il y a des effets secondaires et qu'il faut donc débuter les doses à toute petite dose. Il faut vraiment, la posologie doit être vraiment très très progressive. Et puis il faut s'adapter au type de prise d'alcool du patient. Par exemple, un patient qui ne boit que le soir, donner des grosses doses le matin et le midi n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, on va modifier le schéma de posologie. Donc, ça s'apprend. Donc, nous, en tout cas, on a, depuis 2008, on a un petit peu balbutié, on a inventé une posologie. Mais quand je prescris de l'insuline à un patient qui a des problèmes de diabète, je veux dire, c'est aussi complexe.
Et aujourd'hui, c'est quoi cette posologie, justement?
Il n'y a pas de posologie. C'est ça le problème. C'est qu'il y a des patients qui vont aller bien avec 30 mg et des patients qui vont aller bien avec 300 mg. Mais c'est comme l'insuline, c'est comme la méthadone. Il n'y a pas une posologie, comme on dit, l'antibiotique, c'est 60, ou le paracétamol, c'est 60 mg kilo jour en 3 prises. Ça n'existe pas et je pense que ça n'existera pas. Et c'est là où est la difficulté et où il faut qu'on forme les médecins. On ne peut pas prescrire n'importe comment et on ne peut pas prescrire à n'importe qui non plus.
Alors on reviendra sur les formations juste après. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée plus précise du profil des patients pour qui le baclofène est vraiment indiqué
Il est évident que ça marche beaucoup mieux chez les patients qui ont un profil, on va dire, compulsif et pas obsessionnel. C'est-à-dire compulsif, un patient qui commence à boire et qui ne peut pas gérer, le baclofène annihile, supprime complètement ce besoin de boire et donc va lui permettre de boire normalement comme tout le monde. Et ça, c'est une révolution. C'est-à-dire qu'il va commencer un verre. Il faut trouver la bonne dose. Hein. Oui. Moi, je dis toujours aux patients, on va se donner 3-4 mois, on va augmenter progressivement et on va voir ce qui se passe. En fait, on se rend compte dans les études, là, il y en a une troisième qui vient d'être terminée, parce qu'on nous reproche que c'est toujours les mêmes médecins, c'est toujours de Beaupère, c'est toujours Jory. Bon, là, il y a une troisième équipe qui vient de confirmer nos résultats, qui est l'étude du professeur Granger, qui est un psychiatre, en hôpital, même s'il a des malades ambulatoires, qui confirme les bons résultats. Et si vous voulez, vous m'avez demandé les profils de patients. La seule correspondance qu'on arrive à avoir, c'est la quantité d'alcool bu avant le traitement et le nombre de comprimés. Ça, a priori, il y a une correspondance. Il n'y a pas de correspondance avec le poids, ce qu'on croyait au début, comme chez les animaux, parce que nous ne sommes pas des rats, finalement, on peut le dire. Le rat, c'est entre 3 mg et 4 mg kilo, et chez l'homme, ça n'a aucun rapport.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de médecins d'ores et déjà le prescrivent en France?
C'est difficile à dire, parce qu'on a les statistiques de la sécurité sociale, qui sont complètement fausses à partir du moment où ce ne sont que ils n'ont le retour que de ce qui est remboursé. Or, on a quand même beaucoup insisté pour dire que ce n'était pas remboursé. Donc, il y a un certain nombre de patients qui ne sont pas remboursés, qui sont tout à fait en dehors des statistiques de la sécurité sociale.
On parle de 16 000 ?
De combien ?
16 000.
Médecins ?
Oui.
Oui, probablement entre 10 000 et 16 000. Alors, j'ai lu quelque part que ce n'était pas beaucoup sur 40 000 médecins généralistes. Moi, je trouve que c'est énorme. Sachant que pour les traitements de la substitution buprénorphine et méthadone, 95% des patients actuellement sous buprénorphine ou méthadone sont suivis par des médecins généralistes. Mais ça correspond à 20% des médecins généralistes. Mais quand même, il faut le dire, qu'il ne faut pas non plus stigmatiser les médecins généralistes. On peut prescrire, on sait prescrire.
Alors, docteur Jury, en juin dernier, le directeur général de l'ANSM avait dit que le baclofène, c'est très bien, mais ça ne dispensait évidemment pas d'une prise en charge médico-psychosociale. Comment elle peut s'organiser en ville?
Et ça fait partie de notre boulot. Je veux dire que les compétences de la médecine générale et du médecin généraliste, elles sont connues. Il y a une compétence de la globalité, il y a une compétence de la continuité, il y a une compétence de la relation et de la communication, il y a une compétence de santé publique. Et ces compétences-là, moi en tant que professeur de médecine générale, on forme les étudiants qui vont devenir généralistes à toutes ces compétences. Enfin, ils acquièrent ces compétences. Je pense que la prise en charge biomédico-psycho et sociale, elle fait partie de notre métier. C'est naturel, je veux dire qu'on n'a pas...
D'accord, donc elle en fait partie,
mais c'est évident qu'on n'a pas besoin de dire qu'il y aura une prise en charge médico, psycho et sociale. Elle en fait partie. Moi, je vais plus loin. Nous, on a aussi une prise en charge culturelle et spirituelle et éthique et juridique. Et c'est ça, la médecine générale, c'est ça aussi.
Je reviens sur la posologie, justement. L'ANSM, dans son feu vert, dans cet avis favorable pour la RTU, a fixé la posologie maximale à 200 mg par jour. Pourtant, dans Baclofène, je sais que vous allez jusqu'à 300 mg par jour. Quel est votre avis là-dessus?
C'est assez surprenant que dans Baclofène, on nous autorise à aller jusqu'à 300 mg. Pour l'instant, on ne nous a pas retiré cette autorisation, ce qui aurait été possible. À partir du moment où on a des réunions avec l'ANSM, on a un comité de surveillance indépendant qui voit tous les effets secondaires, qui voit tout ce qui se passe. On a d'ailleurs eu une réunion hier soir encore avec ce comité. Donc on ne nous a pas retiré cette autorisation. On continue à 300 mg. Et là, c'est surprenant. Mais je sens bien là que derrière, il y a l'expérience de Camptea, de Lille, qui est importante. Ils ont beaucoup moins d'effets secondaires que nous, mais ils ont des critères d'inclusion qui ne sont pas les mêmes. Pour moi, ce n'est pas la vraie vie. Et donc, 200 mg, ce qui va se passer, c'est dommage, parce que ce qui va se passer, je vais vous dire, c'est qu'au-dessus de 200, ça sera hors AMM et hors RTU, mais ça continuera.
Enfin, Lille, ce n'est pas la seule différence. Il y a peut-être les critères d'inclusion, mais il y a aussi une prise en charge pluridisciplinaire. Ce n'est pas en ville. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait la différence?
C'est un deuxième recours. Alors, c'est aussi une différence. Puis c'est un deuxième recours. C'est un avis qu'on donne. Mais bon, il y a quand même... Du coup, il y a des critères d'inclusion et de non-inclusion qui sont assez strictes.
Alors, on a parlé il y a quelques mois de certains décès qui sont survenus dans Baclofène. Est-ce qu'ils sont imputables au baclofène?
Écoutez, d'abord, je vais dire que toutes les 12 minutes en France, il y a un décès qui est lié à l'alcool, de façon directe ou indirecte. Donc, on avait prévu un certain nombre de décès, normalement. Actuellement, on a étudié ça hier encore avec le comité de surveillance. Actuellement, aucun n'est vraiment imputable. Il y a des doutes par rapport à des problèmes éventuellement au niveau cardiaque et tout ça, mais c'est des doutes sur très peu de patients. Des patients avec des pathologies qu'ils avaient déjà avant. Donc évidemment, le baclofène ajouté à l'alcool, ajouté à d'autres médicaments, ajouté à d'autres maladies, peut, dans une certaine mesure, favoriser. Oui. Favoriser, c'est peut-être pas un beau mot, mais enfin, en tout cas, peut augmenter le risque.
Alors, en préparant cette émission,
mais l'imputabilité pure, non.
En préparant cette émission, vous m'avez également confié que vous étiez appelé de toute la France par des médecins généralistes pour avoir des précisions justement sur ce protocole de prescription. Vous avez déjà commencé à organiser des formations et où est-ce qu'on les trouve justement?
Alors nous faisons déjà des formations dans toute la France. Il y a deux façons de faire des formations. C'est-à-dire que les réseaux nous demandent de venir pour présenter d'abord ce qu'on fait comme étude et puis après de former les médecins. On nous demande. Et puis nous proposons des formations dans le cadre de l'OGC DPC, c'est-à-dire de la formation médicale continue des médecins, généralistes et spécialistes autres, les psychiatres. On vient d'en faire une là récemment. Donc c'est Ceux qui sont intéressés, en fait, actuellement, ça se fait avec le réseau Aube. Le réseau Aube, AUBES, qui a un réseau uniquement pour les médecins. Au départ, ce sont des patients. Ouais. Et on a créé à côté un espace médecin, un forum médecin, où là, on peut leur proposer des formations un peu dans toute la France qui vont s'organiser dans le cadre de l'OGC.
Donc, sur ce site Internet, on peut trouver des références pour les formations.
Et puis, il y a un deuxième réseau qui vient de se créer. Enfin, il y a un troisième réseau. Enfin, il y a un deuxième réseau qui vient de se créer, qui est RESAB, qui est uniquement réservé aux médecins, où on va faire des formations aussi. D'accord. Qui vont commencer. On a déjà eu une déjà pour former des formateurs.
Merci, Philippe Jory. Les parlementaires européens...